Voilà, c'est toujours un peu particulier pour moi de revenir ici et d'être à cette place-là, que j'ai chauffée pendant un certain nombre d'années aussi. Mais voilà, en tous les cas, c'est un plaisir pour Raël et moi d'être parmi vous ce matin, les deux églises, voir aussi des têtes que nous n'avons pas connues à l'époque où nous étions ici. Voilà, vraiment quelque chose de réjouissant. Nous avons chanté « Rédempteur du monde ». Je ne sais pas si vous avez été interpellé en chantant ce cantique par ce qui m'apparaît un peu comme, je ne sais pas comment dire, une forme de décalage. Nous chantons « Rédempteur du monde ». Et dans la dernière strophe, nous exprimons notre reconnaissance parce qu'un jour, nous, sous-entendu moi, allons voir ta face, Seigneur. Où donc le monde est-il passé entre le début du chant et la fin? Lorsque nous chantons « Rédempteur du monde », il me semble que nous pensons surtout à rédempteur de moi-même ou de nous-mêmes. Et c'est clair que c'est une dimension importante. Le Seigneur est venu pour nous sauver, chacun personnellement. Il est hors de question de nier cela. Mais dans le chant, il est question de rédempteur du monde. Est-ce que nous pensons, en chantant ce cantique, que cela ne concerne pas que nos personnes, mais aussi les situations catastrophiques qui se déroulent aujourd'hui dans le monde, et certaines prières les ont exprimées aussi. Il est difficile aujourd'hui de ne pas au moins nous laisser interpeller par l'actualité de ce monde. Conflit israélo-palestinien, guerre en Ukraine dont on entend moins parler mais qui n'en finit pas non plus, Syrie, Irak, pays d'Afrique, persécution de chrétiens, entre autres, mais pas seulement, il y a des tas de gens non chrétiens qui sont persécutés aussi. Tensions géopolitiques de tous ordres. Et malheureusement, on pourrait continuer la liste longtemps. La haine, la violence, la guerre, le terrorisme aveugle. Et il ne faut pas oublier la part souvent importante de responsabilité de nos pays occidentaux là-dedans. Parce que c'est pas que les autres les méchants et nous les bons. Souvent nous sommes responsables de ce qui se passe là-bas, au moins en partie. Toutes ces choses sont à l'origine des tragédies humaines qui nous dépassent et devant lesquelles nous nous sentons souvent bien démunis. Et les mots nous manquent, je crois, à tous. Lorsque nous voyons ce que certains êtres, pourtant créés en image de Dieu, sont capables de faire à d'autres. Simplement parce que ces derniers ne croient pas ou ne pensent pas comme eux. Chaque fois à nouveau, ces actualités nous font entrer de plein pied dans le monde de la souffrance des victimes, souffrance de ceux qui ont perdu un être cher, souffrance en tout genre, de toutes parts. Et nous, face à cela, devant nos postes de télé ou nos ordinateurs, on reste avec nos questions. Reflet de nos propres incertitudes. Mais jusqu'où ces déferlements iront-ils? Que pouvons-nous faire? si tant est qu'on puisse faire quelque chose. Et puis peut-être ce qui nous gêne un petit peu aussi, sans que nous osions trop nous l'avouer, mais comment est-ce qu'on réagirait si tout ça, ça arrivait chez nous? Si c'était devant nos portes qu'il y avait les attentats? Ou si c'était devant nous qu'on ferme les frontières en disant non, persona non grata, tu peux rester chez toi. Quelle doit être notre attitude en tant que chrétien face à de tels événements et en même temps sans nous laisser détruire par cela? Ce sont des questions bien difficiles et je n'ai pas la prétention de donner des réponses à tout cela. Tout au plus, peut-être quelques éléments de réponse assez modestes que j'aimerais partager avec vous, issus de la méditation d'un court passage dans le livre du prophète Jérémie. Un texte qui décrit l'attitude du prophète face à la tragédie de son peuple qui vient d'être déporté en exil. Je lirai ici, donc, dans le livre de Jérémie, au chapitre 8, les versets 18 à 23. Alors, je suis désolé pour le néerlandais, je ne peux pas le lire dans cette langue-là, mais si quelqu'un veut le lire, aucun problème, c'est tout à fait possible. Jérémie 8, à partir du verset 18, donc des paroles que le prophète énonce. Je voudrais surmonter mon tourment. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici que les cris plaintifs de la fille de mon peuple viennent d'une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Mais pourquoi m'ont-ils irrité par leur statut, par des vanités étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple. Je suis sombre, la désolation me saisit. N'y a-t-il donc plus de baume en Galaad? N'y a-t-il plus de médecins là-bas? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas? Oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Je m'arrête là pour la lecture, on pourrait continuer. Le texte continue dans la même ambiance. Le ministère de Jérémie se déroule à l'époque de la fin du royaume de Juda, royaume du sud, juste avant et pendant les premières années de déportation à Babylone. Jérémie assiste à l'invasion par les Babyloniens, à la prise de pouvoir de cet empire, à la destruction de Jérusalem et quelque temps plus tard à la destruction du temple. Il assiste à la déportation de son peuple, même si lui ne fait pas partie des déportés, mais de ceux qui restent en territoire dévasté. Et c'est dans ce contexte que se situe ce passage. Et ce qui m'interpelle particulièrement dedans, c'est la manière dont Jérémie, se situe face à la souffrance de son peuple. Tout d'abord, il faut le relever, il ne cache pas l'origine du problème. Il cite où il met dans la bouche de Dieu cette parole: pourquoi m'ont-ils irrité par leur statut, par des vanités étrangères? Jérémie met le doigt sur la désobéissance du peuple. Et si on lisait le début du chapitre, ou le chapitre suivant, on verrait à quel point Jérémie lie la situation dans laquelle se trouve le peuple au fait que ce dernier s'est détourné de Dieu. Cela ne nous fait généralement pas plaisir de l'entendre, mais c'est ainsi. L'homme souffre et fait souffrir d'autres à cause de son péché, à cause de son égoïsme. La souffrance de ce monde n'est autre que le fruit de la désobéissance et du péché de l'être humain qui s'est affranchi des directives de Dieu. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut tout de suite ajouter que nous devons être très prudents, en particulier nous, chrétiens. Car le danger nous guette de penser que, puisque la souffrance est le fruit de la désobéissance et du péché de la race humaine, il y a quelque chose de normal à cette souffrance. Et de normal, on passe très vite à une forme de banalisation, de relativisation, voire de justification. Finalement, on n'y peut pas grand-chose. Ou peut-être même pire. Le Seigneur l'a annoncé dans sa parole. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Vous vous rappelez, il le dit ça, Jésus. On est dans la fin des temps. Quoi de normal? Quoi de plus normal à ce qui se passe dans ce monde? On ne devrait pas s'en étonner. Et de là, nous pouvons vite tomber dans des attitudes de légitimer ce qui ne devrait jamais l'être. C'est une évidence que la source première de toute souffrance se trouve dans le péché de l'homme. Et pourtant, il y a ces innocents qui trinquent. Et ce ne sont pas toujours, loin s'en faut, les plus « mauvais », entre guillemets, ceux qui, à nos yeux, le mériteraient peut-être, qui souffrent le plus. Pouvons-nous dès lors rester insensibles? Avons-nous le droit de banaliser, de relativiser la souffrance du monde, simplement parce que le Seigneur nous a avertis que ça arriverait? L'attitude de Jérémie peut, je crois, nous inspirer. Et j'aimerais relever trois aspects dans le texte que nous avons lu. Tout d'abord, l'expression chez Jérémie, claire, d'un sentiment de solidarité et d'identification par rapport, alors claire, il parle de son peuple, mais je pense qu'on peut l'élargir, par rapport à ceux qui souffrent. Jérémie souffre avec. Mon cœur souffre au-dedans de moi, verset 18. Et même, verset 21, je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple. Je suis sombre, la désolation me saisit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jérémie ne reste pas indifférent. Et c'est déjà là une leçon pour nous. Habitués que nous sommes, et moi le premier, à voir tellement d'images de souffrance qu'on finit par ne même plus être touché par les situations terribles que peuvent vivre ceux dont nous oublions parfois un peu trop vite que ce sont nos frères et nos sœurs humains. Et pour certains d'autres, d'entre eux, nos frères et sœurs en Christ. Il est important, je crois, que nous ne nous endurcissions pas, que nous ne devenions pas indifférents à la souffrance qui est au loin. Parce que je crois que lorsque nous devenons indifférents à la souffrance qui est au loin, nous risquons fort de devenir indifférents à celle qui est à notre porte. Désir de solidarité, d'identification, mais aussi, et c'est intéressant de le relever, on voit que chez Jérémie apparaissent des limites. Il voudrait pouvoir pleurer davantage, mais il ne le peut pas. Verset 23, « Si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais, sous-entendu, ils ne le sont pas, et j'arrive plus à pleurer. » Il semble ne plus être en mesure de pleurer comme il pense qu'il devrait pouvoir le faire. Un de mes anciens professeurs de la fac a dit un jour, en commentant ce texte, par rapport à la souffrance, les limites sont là, on les rencontre. On ne peut pas constamment penser au malheur. On ne peut pas le porter à tout instant. On ne peut pas découvrir en soi suffisamment de ressources pour que notre peine soit à la hauteur du malheur lorsqu'il a frappé de manière définitive, irréversible. Je crois que nous vivons la même chose, à des degrés divers sans doute. La solidarité, l'identification avec ceux qui souffrent est importante parce que ce sont des êtres humains comme nous. Mais quelque part, nous devons aussi rester conscients de nos limites. Nous pouvons beaucoup porter, et sans doute parfois un peu plus que ce que nous pensons. Mais nous ne pouvons pas non plus tout porter. Tout simplement parce qu'il n'y en a qu'un seul qui peut tout porter et qui a tout porté. Et que nous ne sommes pas celui-là, puisque c'est Dieu. Désir de solidarité, d'identification et en même temps nécessité d'une certaine distanciation. Pour autant, cette distanciation et ses limites ne sont pas à comprendre comme un abandon ou un désintéressement. Dans la bouche du prophète retentit une sorte d'appel, c'est le troisième élément que je relève de ce texte, une sorte d'appel en faveur du peuple souffrant. Verset 22. N'y a-t-il plus de baume en Galaad ? N'y a-t-il plus de médecin là-bas ? Galaad était une région du pays d'Israël, située au nord-est du Jourdain, qui était connue pour ses aromates, avec lesquels on fabriquait des baumes, des onguents, des médicaments, qui servaient à la guérison, des pommades. On appelait au baume et au médecin de Galaad, concrètement, c'est poser la question s'il reste quelque part dans ce pays, dans ce monde, quelque chose ou quelqu'un qui pourra apporter au moins un peu de soulagement. Et cette question, me semble-t-il, nous interpelle. Parce que quelque part, elle nous interroge, nous aussi, aujourd'hui, pas seulement sur le regard que nous portons sur la souffrance de notre monde, mais aussi quant à la manière dont nous nous situons par rapport à cette souffrance. N'y a-t-il plus de baume en Galaad ? N'y a-t-il plus de baume dans ce monde ? N'y a-t-il plus de médecins dans ce monde ? Est-ce que cette question ne se pose pas un petit peu à nous, chrétiens? Nous qui savons en particulier que la guérison dont le monde a besoin n'est pas que physique, n'est pas que sociale, n'est même pas que politique, qu'elle est aussi spirituelle. Ne nous est-il pas donné, ne nous est-il pas demandé d'être un peu de ce baume dans notre monde? Mais alors comment? Il y aurait sans doute beaucoup de pistes possibles, j'en mentionne quelques-unes et puis vous penserez peut-être à d'autres. Je crois d'abord qu'il est important de ne pas fuir, de rester présent, de ne pas nous réfugier dans notre petit monde paisible et tranquille où nous nous sentons en sécurité en attendant d'aller au ciel. Et puis comme on sait qu'on ira au ciel, ben finalement, on va juste un peu serrer les dents en attendant, on ne va pas trop regarder autour de nous. Notre espérance est ailleurs. C'est dangereux ce genre d'attitude. Parce que nous ne voyons plus ceux qui souffrent autour de nous. Sans compter, soit dit en passant, que c'est même pas sûr qu'on ira au ciel, parce que l'idée c'est peut-être plutôt qu'on habite sur une terre renouvelée, mais bon, ça c'est un détail. Être présent, rester présent, ne pas fuir. C'est cette présence qui nous permettra de témoigner au monde de notre amour pour lui, par des gestes concrets qui ne doivent pas forcément être grandioses et qui parfois ne peuvent pas l'être, mais qui doivent être sincères. Il s'agit de faire pour celui ou celle qui souffre ce que nous pouvons faire pour lui, ce qui est dans nos capacités, sans mépriser les petits gestes dont on pense parfois que ça en vaut pas la peine. Ne méprisons pas cela. Ne pensons pas que ça ne vaut jamais, que ça ne vaut pas la peine de faire du bien, même si c'est pas grand-chose. Ne nous laissons pas gagner par ce sentiment que nous éprouvons parfois, que le geste, la parole de solidarité, toute simple, serait inutile ou dérisoire. Pour celui ou celle qui les reçoit, ça n'est jamais dérisoire. Et parfois, nous ne pourrons rien faire d'autre que prier. Si nous en sommes encore capables, soyons alors de ceux qui persévèrent dans ce domaine, parfois dans le secret, même si nos prières nous semblent parfois aussi dérisoires. Je crois encore qu'être baume dans ce monde, c'est aussi faire l'effort et veiller à ne pas nous laisser entraîner dans les discours faciles, stigmatisants, dans les amalgames que pratiquent avec beaucoup de compétences certains médias, certains politiques, qui visent davantage à nous faire avoir peur de ceux que nous devrions être en mesure d'aimer, qui visent parfois à nous faire voir le mal et les problèmes chez les autres et pas chez nous, aussi terribles les autres soient-ils. Mais comme je disais au départ, notre responsabilité est engagée aussi en tant que nation dans ce qui se passe dans ce monde. Être un peu de baume de Galaad, c'est peut-être aussi faire l'effort de discerner les choses le plus justement possible, malgré leur complexité qui est réelle. Il y a tant de choses qui nous échappent. Mais surtout, ne pas nous faire les porteurs, les porte-voix de discours de pensée facile, simpliste, qui ne vise qu'à une chose finalement, nous faire penser à nous-mêmes et éviter de pratiquer le bien. Je pense enfin, dernière chose que je mentionne, qu'être ce baume de Galaade, c'est aussi, même si c'est parfois bien difficile, rester des témoins d'espérance. Nous croyons que l'Évangile est la solution aux problèmes spirituels de ce monde. Nous croyons en un Christ qui a vaincu les forces du mal. Nous croyons en un Christ qui peut guérir. Un Christ qui peut restaurer des vies brisées. Et nous avons des discours parfois tellement défaitistes, tellement peu remplis d'espérance. Et si c'était, comme le suggèrent certains, une chance, entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets, que Dieu conduise parfois au gré des tragédies, auprès de nous, des hommes et des femmes et des enfants brisés, pour qu'ils puissent voir qu'il y a encore un peu d'espérance en nous, et que nous puissions leur témoigner de cette espérance. Peut-être, c'est seulement ça, être baume de Galaade, être des gens qui croient et qui disent qu'il y a encore de l'espérance possible, malgré tout ce que nous voyons. Il y a peut-être des enjeux bien plus vaste que ce que nous imaginons quand nous voyons ces guerres et ces catastrophes en tout genre autour de nous. Le corps du Christ que nous formons dans nos réalités locales et de manière plus large aussi dans toutes les manifestations de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, le corps du Christ saura-t-il se montrer à la hauteur de sa tâche, saura-t-il être un témoin d'espérance? Il faut espérer que nous pourrons encore continuer à l'être, même si des fois nous avons envie de baisser les bras. Notre monde ne va pas très bien, c'est un fait, et ne va même pas bien du tout. Pour autant, puisse le Seigneur nous garder de nous habituer, de devenir indifférents, de devenir défaitistes, qu'il nous fasse au contraire la grâce d'être de celles et ceux qui pourront, par leurs actes, par leurs paroles, par leur capacité à espérer encore, d'être de celles et ceux qui pourront apporter à ce monde, au nom de Christ, un peu de ce baume de Galaade dont le monde a tant besoin. Que le Seigneur nous aide à être de ce baume de Galaade. Amen.